Bienvenue sur les podcasts de Profession Banlieue, le centre de ressources politiques de la ville de la Seine-Saint-Denis qui accompagne les professionnels et les acteurs du territoire depuis plus de 20 ans. Nous vous proposons de revenir dans cet épisode sur l'intervention de Lucille Biarotte, directrice conseil chez Tréclair, docteur en urbanisme et autrice d'une thèse intitulée « Déconstruire le genre, normes et pratiques dans l'urbanisme » lors du 5 à 7 organisé par Profession Banlieue le 25 octobre 2021. À l'heure où les quartiers séquano-dionysiens connaissent de profondes mutations urbaines, et alors que la politique de la ville vise à lutter contre les inégalités de tous ordres, il convient de réfléchir aux inégalités de genre dans l'espace public, afin de le rendre plus inclusif pour tous et toutes. Bonne écoute.
Alors, je vais tout de suite revenir sur qu'est-ce que ça recouvre le concept de genre, parce que ça ne va pas du tout de soi, je pense qu'on y met beaucoup de choses, sans forcément prendre le temps de redéfinir ce que c'est. Alors moi, je vous donne la définition avec laquelle je travaille, en sachant que c'est un concept qui est évidemment largement discuté depuis une trentaine d'années, 30-40 ans, que rien n'est stabilisé, que chacun, chacune dans la recherche a sa propre manière de l'expliquer, que c'est un concept très riche et très mouvant. Donc voilà, moi, je vous donne ma définition de travail. Pour moi, le genre, c'est un système de distribution binaire de rôles sociaux entre ce qui est considéré comme féminin et masculin, entre les femmes et les hommes. Et cette distribution binaire de rôles sociaux est basée sur des critères à la fois biologiques, mais aussi sociaux, sur le sexe, ce qui est femelle et ce qui est mâle. Ce système-là, il naturalise les différences la plupart du temps construites entre les femmes et les hommes, et surtout, il hiérarchise les valeurs qui sont considérées comme féminines ou comme masculines, plutôt la plupart du temps en faveur des valeurs masculines, ce qui implique une domination masculine, mais aussi hétérosexuelle, et c'est ça qu'on appelle le patriarcat. Et ce système de patriarcat, il entraîne des discriminations à la fois envers les femmes, mais aussi envers certaines personnes qui ont des orientations sexuelles non hétérosexuelles et toute personne qui ne correspond pas aux normes de genre binaire dominantes. Et ça peut être les personnes intersexes, les personnes transgenres, les personnes agenres, non binaires, ou aussi des féminités, les personnes qui ont des féminités ou des masculinités qu'on considère comme alternatives, qui ne correspondent pas aux normes majoritaires. Alors évidemment, je n'ai pas inventé ce concept, je ne vous donne pas cette définition de nulle part. Je m'inspire largement des travaux d'Elsa Dorlin et de Christine Delphi, qui sont deux théoriciennes féministes françaises contemporaines. Les théories féministes et études de genre sont un domaine de recherche très riche, très, très vivant actuellement. Et moi, je me base principalement sur ce courant-là. Je ne vais pas m'attarder à différencier le concept de genre de tous les autres concepts que j'ai listés à droite, le sexe, l'orientation sexuelle, les pratiques sexuelles, l'identité de genre, alors le genre bien sûr, le sexisme, l'hétéronormativité, mais disons qu'il y a tout un champ conceptuel évidemment qui tourne autour du genre et qui est très riche. Là, je ne peux pas forcément rentrer dans le détail, mais je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur les différences et la construction de ces concepts au fur et à mesure du développement des différents courants féministes, de théories féministes. Et dans Elsa Dorlin, dans son petit bouquin « Sexe, sexualité et genre », quelque chose comme ça, c'est peut-être pas dans le bon ordre, elle synthétise vraiment beaucoup toutes ces réflexions. Donc c'est vraiment, si vous voulez, un petit bouquin assez rapide à lire, pas toujours hyper facile, mais c'est quand même pour moi la meilleure synthèse. Je vous invite vraiment à aller voir de ce côté-là. Voilà ma définition de travail. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, là je vais revenir sur des chiffres hommes-femmes parce que la plupart des données genrées ne concernent que les hommes et les femmes dans les données qui existent actuellement. On sait qu'aujourd'hui, les chiffres montrent que, les statistiques montrent qu'il y a des rôles et des traitements qui sont encore largement inégaux dans de nombreux domaines entre les femmes et les hommes. Alors, autant les filles réussissent mieux, plutôt mieux à l'école que les garçons, autant dans le reste de la vie, c'est moins flagrant le fait que les filles aient un avantage sur les garçons. Au contraire, le taux d'emploi des femmes est moins élevé que celui des hommes en moyenne et il chute carrément. Carrément à partir du moment où des femmes ont des enfants, alors que ce n'est pas du tout le cas pour les hommes. Et tout cela, la répartition en fait des tâches entre les femmes et les hommes, qui sont aujourd'hui 80% des tâches ménagères, selon les statistiques de l'INSEE, hein, sont encore réalisées par des femmes. Quand je me dis tâches ménagères, j'intègre le soin des enfants, le soin de la maison, le soin des personnes âgées, etc. Donc c'est encore largement majoritairement fait par des femmes et ça a des conséquences sur tous les domaines de la vie, en particulier donc le travail, la rémunération, les carrières et y compris les retraites. Aujourd'hui, enfin ces chiffres datent un petit peu, hein, je crois que c'est de 2014, les retraites par mois en moyenne 932 euros pour les femmes contre 1600 pour les hommes. Alors évidemment, on a des effets générationnels, hein, parce que aujourd'hui, les femmes travaillent quand même plus de manière salariée qu'auparavant, même si ce n'est pas du tout nouveau, hein, le fait que les femmes travaillent de manière rémunérée. Mais voilà, on constate ce genre de différence. Aussi, la plupart des familles monoparentales ont à leur tête des mères et non des pères. Voilà, bon, je vais passer sur les chiffres qui sont relativement génériques. Et qui sont faciles à trouver en plus vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Chaque année, le ministère des Droits des Femmes publie ce type de chiffres. Donc là, vous pouvez en trouver des plus récents qui datent de l'année dernière, par exemple. Ça, c'était juste pour vous donner quelques exemples au cas où vous ne seriez pas déjà convaincu qu'il existe encore des inégalités entre les femmes et les hommes. Et surtout, là où je vais en venir, évidemment, c'est que ces inégalités sociales, elles ont, et économiques, elles ont, des conséquences extrêmement concrètes sur les usages spatiaux, sur les mobilités, sur les vécus, sur les appropriations spatiales. Et on se rend compte que le groupe des femmes et le groupe des hommes, d'un point de vue statistique, ont des usages spatiaux différenciés et inégalitaires. Je vous donne quelques exemples. Dans les pratiques et perceptions genrées des espaces publics, on sait notamment que le sentiment d'insécurité est largement plus fort chez les femmes. En moyenne, on a 30% d'écart entre le groupe des femmes et le groupe des hommes. Donc là, par exemple, l'IAU, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, qui s'appelle maintenant Institut Paris Region, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais. Et ben, chaque année, enfin, depuis un petit moment, ou presque peut-être tous les 2 ans, ils font une étude sur les femmes et l'insécurité. Et en fait, c'est autant les femmes et les hommes d'ailleurs, et l'insécurité en Île-de-France, et notamment avec des chiffres différenciés selon les territoires, selon les départements. Donc, si vous cherchez des chiffres particulièrement sur le département d'Île-de-France dans lequel vous travaillez, vous allez pouvoir les trouver grâce à ça et les comparer à ceux des autres départements franciliens. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et donc, ces chiffres-là, de manière extrêmement constante, ils montrent qu'on a quasiment toujours 30% d'écart entre le sentiment d'insécurité. Enfin, quand on a 65% de femmes qui ont peur dans les espaces publics ou qui ont un sentiment d'insécurité, on a 35% d'hommes. Ce qui est très intéressant, c'est quasiment dans tous les endroits dans le monde où on fait ce type de recherche, on se rend compte qu'il y a toujours cet écart de 30%. C'est vraiment très, très récurrent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment d'insécurité, ça a de vraies conséquences sur la manière dont les gens se déplacent. Typiquement, les transports en commun, dont on sait qu'ils sont plus utilisés au quotidien par les femmes, parce qu'elles ont moins accès à la voiture individuelle, notamment, ou parce qu'elles n'ont pas non plus les mêmes types de chaînes de mobilité. Elles font des trajets plus courts, mais plus nombreux. Eh ben, on se rend compte que les femmes ont plus souvent peur dans les transports en commun que les hommes. Et là, bon, on voit par mode de transport qui a peur et qui a moins peur. Je vous invite vraiment à aller voir le détail de toutes ces études. Ressenti dans le quartier. Ça peut même aller jusqu'à avoir des femmes qui ont tellement peur le soir dans leur propre quartier qu'elles ne sortent même pas de chez elles. Là, on a 5% des femmes en 2017 qui déclaraient avoir trop peur le soir pour sortir de chez elles, alors qu'aucun homme ne disait avoir ce problème-là. Évidemment, on peut aussi avoir des biais dans les réponses, hein, parce que traditionnellement, les femmes, c'est plus légitime qu'elles expriment leur peur. Alors peut-être qu'il y a des hommes qui ont très peur le soir et ne sortent pas de chez eux, mais à vrai dire, ils ne vont pas forcément le déclarer non plus, parce que ce n'est pas forcément un signe de masculinité, de déclarer sa peur. Mais voilà, en tout cas, on a quand même des écarts assez criants en termes de sentiment d'insécurité. Ça a des vraies conséquences sur la manière dont les gens se déplacent, à quels horaires, selon quel mode. Et voilà, donc ça contraint tout un tas d'autres choses dans la vie, en fait, hein. Donc ça, c'est un exemple. On se rend compte aussi qu'il y a des chaînes de mobilité, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, en termes de temps et d'espace qui sont différents. Comme on a des rôles sociaux différenciés entre les femmes et les hommes de manière générale, on s'est rendu compte, alors c'est la ville de Vienne, en fait, en Autriche, qui est assez pionnière en fait dans ce qu'on appelle le gender mainstreaming, c'est-à-dire l'implémentation transversale de l'approche de genre en urbanisme. Et donc depuis les années 2000, il y a eu beaucoup d'études là-bas, et notamment elles ont produit, enfin ce sont quasiment que des femmes hein, qui ont produit ce travail-là au sein de la municipalité de Vienne. Elles ont modélisé les différences de mobilité des femmes et des hommes. Et donc là, par exemple, on a une chaîne de mobilité qu'on dit typiquement féminine, selon leurs chiffres à elles. Et donc, on part de la maison, on va aller à la crèche, puis à l'école pour amener l'enfant un peu plus grand. Puis on va aller travailler dans un travail à temps partiel, puis revenir à la crèche, revenir à la maison, aller faire les courses. Aller voir une personne âgée, par exemple, puis revenir à la maison. Et tout ça dans la même journée. Donc, on aura de multiples petits déplacements à une échelle relativement locale. Alors que les modèles de mobilité masculine sont beaucoup plus simples, entre guillemets. C'est plutôt du déplacement domicile-travail, éventuellement course, puis domicile. Et ça, plutôt en véhicule individuel, comme une voiture. Alors que les femmes sont plus dans des mobilités locales, à pied et en transport en commun. Alors évidemment, ce sont des moyennes, hein. Ça ne veut pas dire que c'est représentatif de toutes les femmes, de tous les âges de la vie. Un autre domaine dans lequel c'est assez criant, c'est l'appropriation, des espaces de loisirs. Qu'il y a une différence homme-femme, c'est assez criant. Ça a été démontré par Edith Marie-Jouls, qui est géographe et qui, dans sa thèse sur la région bordelaise, a montré que les pratiques sportives entre filles et garçons, donc chez les adolescents, les enfants et les adolescents, quand on regardait le temps de pratique sportive dans les espaces municipaux et donc l'argent alloué à ces pratiques-là, on se rendait compte que c'était les deux tiers qui étaient utilisés par des garçons. Donc les deux tiers de l'argent public revenaient à un public masculin, alors que les pratiques féminines profitaient beaucoup moins de ces infrastructures sportives. Donc ça pose vraiment question sur tout l'argent qu'on peut dépenser dans des infrastructures très orientées, mono-orientées en particulier, que du foot, que du basket, alors qu'aujourd'hui on a quand même des réflexions sur des espaces un peu plus partagés, plus mixtes en termes d'utilisation. Je vous dis plein de domaines hein, dans lesquels il y a des conséquences des inégalités de genre en urbanisme. Donc, il y a l'utilisation des infrastructures sportives, notamment, mais il y a aussi l'accès aux toilettes ou aussi l'accès aux activités de soins des autres. Voilà. Alors, pourquoi s'intéresser à l'approche de genre pour aménager l'espace, du coup? Moi, souvent, ce que j'ai entendu pendant ma thèse, pendant mon enquête de terrain, c'était que l'urbanisme ne pouvait pas régler le sexisme et que ça, c'était un problème social, c'était un problème d'éducation, ça n'avait rien à voir avec ce que faisaient les urbanistes. Voilà, donc vraiment l'urbanisme n'avait rien à voir avec ça. Par ailleurs, les urbanistes avaient souvent la conviction absolument tout à fait, comment dire, enfin vraiment collés au corps, quoi, qu'ils et elles aménageaient pour tout le monde, qui ne discriminaient pas du tout des catégories de population, et que donc, bah, les questions de genre, les inégalités de genre, ce n'était pas non plus leur problème, parce qu'en urbanisme, il n'y avait aucune volonté de discriminer qui que ce soit. Alors, de mon point de vue, c'est à la fois vrai et faux. Pourquoi? Parce que l'urbanisme, effectivement, ne peut pas intervenir sur toutes les discriminations de genre. Typiquement, l'urbanisme ne peut pas combler les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. On ne peut pas non plus forcer des usages égalitaires. On peut penser un espace public de manière la plus riche possible, en prenant en compte le plus vaste panorama d'utilisateurs et d'utilisatrices, mais on ne pourra jamais forcer les gens à l'utiliser de manière égalitaire, évidemment. Et bien sûr, les urbanistes n'ont quasiment jamais de volonté de discriminer volontairement des populations. Ça, c'est évident. Donc moi, je les crois quand ils disent, et elles, ils et elles disent qu'ils ne discriminent personne. On a des présupposés sur plein, plein, plein de choses, y compris sur le fonctionnement de la société, y compris sur la répartition des tâches de la vie quotidienne. C'est très important d'adopter ce que la géographie féministe et les études de genre de manière générale et féministe appellent la connaissance située. Ça veut dire que quand on produit de la connaissance, on a toujours un positionnement social. Et c'est valable autant pour les scientifiques que pour n'importe qui. On parle toujours d'un endroit précis avec une identité propre, un genre, un âge, une époque à laquelle on est né, un milieu social, des origines sociales, etc., qui influencent notre vision du monde, notre compréhension du monde. Et donc, les urbanistes, en tant que groupe social qui partage un certain nombre enfin, une culture en fait professionnelle et un certain nombre de spécificités sociales assez homogènes, notamment le fait que ça nécessite d'avoir fait des études assez longues, au moins un master, que ce soit en école d'ingénieur ou à l'université, ou même en école d'architecture. Déjà, on sait que ce sont quasiment que des gens de classe moyenne et supérieure, la plupart du temps qui n'ont pas subi de racisme. Et aujourd'hui, ce sont très majoritairement des femmes aussi qui font les études d'urbanisme et d'architecture. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a quand même certaines caractéristiques sociales qui vont influencer les manières de voir le monde, les manières de voir les autres classes sociales, et y compris les personnes issues des milieux populaires et qui habitent dans les quartiers de politique de la ville. Donc il y a quand même beaucoup de présupposés sociaux dans ce milieu professionnel. Ce que les urbanistes ignorent aussi la plupart du temps, c'est qu'il y a des usages spatiaux qui sont genrés et qu'on les prend rarement en compte. Je vous en ai déjà montré tout à l'heure, qui sont liés aux rôles sociaux différenciés, qui en découlent la plupart du temps. Mais voilà, de fait, il y a des usages spatiaux genrés, différenciés. Et ça, la plupart du temps, les urbanistes n'en ont aucune conscience. Ça passe de manière extrêmement inaperçue, en fait, alors que c'est très criant dès qu'on commence à faire des comptages et à essayer de rendre ça palpable, en fait. Et le dernier élément, c'est que les aménagements ont aussi des impacts différenciés et sont aussi des objets sociaux en eux-mêmes, en fait. Typiquement, quand on construit des toilettes, eh ben, on a des présupposés, et je vous montrerai un exemple tout de suite après. On a des représentativités inégales dans les milieux professionnels et les concertations, c'est-à-dire qu'il y a des milieux professionnels, par exemple, plus proches du BTP dans le milieu de l'urbanisme, qui sont très masculins, alors que d'autres qui se rapprochent du social, typiquement en politique de la ville, c'est souvent très, très féminisé. Donc ça peut jouer aussi sur certaines choses, certaines manières de travailler, parce qu'on continue à avoir des éducations différenciées jusqu'à aujourd'hui, hein, donc entre femmes et hommes. Donc voilà, il y a des réflexes. Moi, pour moi, tout ça est extrêmement construit socialement, mais voilà, malgré tout, il y a des différences. Et dans les concertations en urbanisme, alors malheureusement, on n'a pas encore d'études à l'échelle française qui permettraient d'avoir une vision très détaillée de quels sont les biais des manières de faire de la concertation en urbanisme, mais on sait qu'il y a quand même certains types de concertations, typiquement tout ce qui est extrêmement stratégique à des échelles régionales, qui sont très masculines, très masculinisé, alors que la plupart des actions locales, quand on parle d'un espace public près d'une école ou ce genre de choses, ça peut être extrêmement féminisé, avec au contraire très peu d'hommes qui vont donner leur avis. Donc, selon les échelles auxquelles on consulte et les types de sujets qu'on traite dans les concertations, on peut avoir des publics très, très différenciés. Et on sait aussi, par exemple, que ce sont souvent, quand on a des formats de concertation classiques en réunion publique, ce sont souvent des personnes plus âgées qui viennent, et on a une complète absence des personnes, des adolescents, des personnes jeunes, et une quasi-absence des jeunes familles. Donc en gros, on perd quasiment tout le monde en dessous de 40-45 ans. Donc la plupart du temps, la représentativité des concertations, c'est surtout, ça donne la voix surtout des personnes de plus de 45, 50, voire 60 ans. Alors que toutes les expériences précédentes sont relativement tues ou pas exprimées, quoi. Et donc, la question, c'est en quoi l'urbanisme perpétue-t-il des stéréotypes et des discriminations de genre? Même s'il ne peut pas évidemment régler les problèmes du sexisme en global, il a quand même un rôle actif qu'il peut jouer dans la lutte contre les inégalités de genre. Et donc, moi, la question que je me suis posée dans ma thèse, notamment, c'était quel rôle peut-il jouer dans la lutte contre ces inégalités? Voilà, donc en tout cas, si je reviens sur juste la diffusion à l'échelle internationale, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même eu beaucoup de travail qui avait été fait au Canada dans les années 80-90, qui s'était diffusé à la fois au Canada, mais aussi en Europe, y compris en France. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ont été diffusées par l'ONU, en fait, par plusieurs programmes onusiens, le programme régional Ville Sûre, le programme Safe Cities Global Initiatives, et Because I am a girl. Et voilà, tout ça, ça a permis quand même de diffuser pas mal de bonnes pratiques sur la place des femmes dans les espaces urbains, avec des variations existantes. Je vais peut-être m'arrêter un peu plus sur le programme de Montréal, qui est un programme municipal genré dans les années 90, et qui est vraiment à l'origine de beaucoup des pratiques actuelles à l'échelle internationale, y compris en France. Donc, pour vous refaire le contexte, concrètement, non, je ne vais pas remonter tous les détails, mais en gros, à la fin des années 80, il y a eu vraiment un mouvement à l'échelle montréalaise de revendications féministes. Il y a eu des femmes qui ont été élues, et tout un rassemblement des citoyens et des citoyennes de Montréal qui a été élu, et qui a décidé qu'il fallait discuter de la place des femmes dans la ville et pour aider à l'émancipation. Donc, il y a eu une étude qui a été faite sur la place des femmes dans la ville. En 89, il y a un début de programme municipal avec un partenariat dans la société civile qui a été mis en œuvre, et il y a eu un colloque « Femmes et espaces urbains » qui a été fait par les services municipaux et ses partenaires. La question, c'était quand même très, très orientée sur la sécurité dans l'espace public, mais ça a vraiment abouti à une méthodologie participative innovante à l'époque, qui sont les marches exploratoires. Les marches exploratoires, en quoi ça consiste concrètement? C'est une marche avec des femmes. Au départ, c'était vraiment réservé aux femmes, avec tout un petit questionnaire auquel répondre pendant une heure ou deux heures. Et donc, le but, c'est de se balader dans son quartier à différentes heures du jour et de la nuit, et de relever les éléments de l'espace urbain qui posent soucis, qui aggravent le sentiment d'insécurité, ou les problèmes de mobilité. Ça peut être l'absence de toilettes, ça peut être l'absence de bancs. Il y a toute la question de la visibilité. Et donc, il y a plein de marches exploratoires qui ont été faites tout au long des années 90 et qui ont abouti à la production du guide d'aménagement pour un environnement urbain sécuritaire par Sophie Paquin et je ne me rappelle plus du prénom de Michaud en 2002. Et il y avait ces six grands principes qui étaient cités dans ce guide d'aménagement pour un environnement urbain sécuritaire. C'était... Premièrement, savoir où l'on est et où l'on va, avec la question de la signalisation. Donc, très important, y compris pour les piétons et piétonnes, de savoir toujours où on est, avec des plans accessibles assez régulièrement, des indications en termes de où trouver tel ou tel arrêt de bus. Par exemple, quand on sort du métro, avoir des indications sur quelle rue on sort, puis quel arrêt de bus on va trouver à telle ou telle sortie. C'est extrêmement important pour éviter de se sentir perdu, d'avoir l'air pendant quelques instants ou minutes perdu et potentiellement repéré par quelqu'un de malveillant. Ça, c'était vraiment la peur qui allait derrière. Le fait de voir et d'être vu, c'était le deuxième grand principe, donc la question de la visibilité. Et ça joue à la fois sur l'éclairage la nuit, mais aussi sur la question des cachettes. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se cacher derrière un obstacle ou derrière un fourré? Voilà, donc l'importance d'avoir un champ de vision très dégagé. Ça a joué notamment sur le réaménagement de parcs en fait à Montréal, où ils ont essayé d'éviter certains types de plantes qui permettaient vraiment de se cacher et d'avoir des espaces beaucoup plus dégagés en termes de végétation. Ça fonctionne aussi sur la question des déplacements prévisibles. Quand on prend par exemple une passerelle ou qu'on longe un chantier et qu'on se retrouve entre deux murs où il n'y a aucun autre chemin possible que celui où on va tout droit, ça c'est un déplacement très prévisible. Et donc ça veut dire qu'on peut plus facilement se retrouver coincé aussi par quelqu'un de malveillant ou se retrouver dans une situation angoissante. Donc il y avait la question de trouver des échappatoires ou des chemins alternatifs et d'essayer d'éviter l'effet corridor, quoi. Troisième point, c'est entendre et être entendu. Est-ce que les lieux sont animés au quotidien, y compris le soir? Donc c'est un peu la même chose que voir et être vu. Il y a évidemment dans ces deux points-là, plus que la question de la vidéosurveillance, l'influence assez importante de la co-veillance. En fait, c'est le fait qu'il y ait de la présence, le plus ou moins formelle ou informelle, au quotidien, notamment par exemple des commerçants qui sont sensibilisés aux questions de violence sexiste et sexuelle et qui vont être en capacité d'accueillir une femme qui se sentirait suivie dans la rue et qui ne vont pas lui dire qu'ils s'en fichent. Par exemple, il y a eu des petits autocollants qui ont été collés sur certaines vitrines de magasins qui étaient ouverts le soir, pour se dire, si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez un problème, quelqu'un qui vous suit ou qui vous harcèle, vous pouvez rentrer dans ce magasin et voilà, on appelle la police ou on attend que la personne s'en aille et voilà, on est là pour vous. Donc pouvoir s'échapper et obtenir du secours, ça arrive à ce point-là aussi, hein, la surveillance formelle et l'accès à l'aide. Vivre dans un environnement propre et accueillant, ça c'était extrêmement important pour le sentiment de sécurité. Et le dernier point, c'était d'agir ensemble avec la participation de la communauté, avec la question des marches exploratoires, le fait de se réapproprier aussi son quartier le soir notamment, c'était très très important pour pas mal de femmes. Avoir de la mobilisation à l'échelle locale, pouvoir se réapproprier les lieux publics, voilà, toute cette réflexion-là. Et donc, toutes ces marches exploratoires, elles ont vraiment abouti à un guide avec des indications sur quoi faire, comment aménager les espaces. Et ça a abouti, je vous donne des exemples d'espaces montréalais, à des manières de réorganiser, par exemple, les édicules de métro. Donc, typiquement, ça, c'est un édicule de métro montréalais où on voit que la question de la transparence est extrêmement importante. Par exemple, les portes, les petites barrières là sont en plexiglas transparent. Pareil pour les portes d'entrée qui protègent de la neige en hiver, qui sont assez lourdes à déplacer, mais qui sont transparentes. On ne peut pas se cacher derrière. Pareil, vous voyez là, vous sortez sur une rue, vous avez le nom de la rue. Et où est-ce que vous allez trouver les différents arrêts de bus? Là, il y a une autre sortie dans ce coin-là, de cet arrêt-là, rue Sainte-Catherine. Et là, par contre, vous allez trouver des autres arrêts de bus à cet endroit-là, avec des petites flèches. Pareil, donc le mur, là, c'est un mur vide. Enfin, ce n'est pas un mur plein, il y a de la transparence. Et vous avez une petite échoppe de journaux et sans doute de nourriture à cet endroit-là, également transparente. Donc potentiellement, vous allez avoir de la surveillance informelle de la part des commerçants qui sont là, même s'il n'y a personne typiquement au guichet pour vous répondre. Voilà, donc ça c'est un exemple dans un édicule de métro. Ça c'est à l'intérieur du métro. Il y a la question par exemple des petits miroirs qui permettent d'éviter que quelqu'un se cache au coin d'un tournant. Il y a aussi toute la question de l'art et de la propreté du métro. À Montréal, c'est assez criant par rapport au métro parisien. Le fait que ce soit extrêmement bien entretenu et qu'il y a beaucoup de décorations. Voilà, c'est vraiment fait pour que ce soit un environnement agréable. Voilà, ça c'est un exemple assez similaire. Mais il y a aussi, par exemple, des réaménagements de parkings souterrains qui sont des hauts lieux d'angoisse féminine. Et donc là, typiquement, exactement les mêmes règles d'aménagement qui ont été adaptées avec la question de la transparence, y compris dans l'ascenseur. Là, on ne voit pas forcément très bien, mais l'ascenseur aussi a des portes transparentes. Idem pour l'accès aux escaliers. Et les escaliers, là, ce n'est pas forcément le cas parce que ce sont les accès directs, mais aux autres étages, ce sont des escaliers à claire-voie. Donc, on voit aussi à travers. Et pareil, là, il y a la question de l'éclairage dans ce parking et de la décoration qui était assez travaillée. Voilà, ça, ce sont des petits exemples de production qui ont été faites à Montréal. Il y a un système aussi particulier qui a été inventé là-bas qui s'appelle entre deux arrêts, dans les bus en fait. Et ce système-là, ça consiste notamment pour les femmes le soir à être en capacité de demander au chauffeur ou à la chauffeuse de bus de s'arrêter entre deux arrêts pour être déposé plus près de chez soi. Et ça, c'est surtout en hiver que c'est proposé. Enfin, non, c'est proposé la nuit et surtout en hiver parce que il fait nuit beaucoup plus tôt. Mais en fait, c'est toute l'année. Hein. Voilà. Et alors ça, c'est un système qui a été adopté il y a quelques années dans plusieurs villes françaises, y compris à Nantes, qui a été une des villes test en fait là-dessus. Donc voilà, moi j'aime bien quand même reconstituer un peu la généalogie de ces manières de faire, de ces pratiques. Et donc ça a eu des impacts internationaux assez importants, hein. Le travail qui a été fait à Montréal, en l'an 2000, il y a eu le prix des bonnes pratiques qui a été attribué par ONU Habitat. Et c'est pour ça aussi que ça a influencé ensuite, comme je vous montrais sur ma carte, tout un tas d'autres villes à l'échelle internationale. Bon, malheureusement, il y a eu un peu à un moment une diminution de l'intérêt pour cette question et il n'y a jamais eu vraiment d'études d'impact sur est-ce que ça avait fondamentalement amélioré les usages urbains quotidiens des femmes. Ça, c'est toujours un petit peu les éléments manquants. Alors, hop, voilà. Ah oui, tiens, je peux vous donner un exemple sur la réflexion sur le réaménagement des terminus de bus. Ça, ce sont des documents techniques qui ont été utilisés par les services techniques et qui reprenaient les six grands principes que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, on a vraiment des analyses d'espaces de bus tels qu'ils sont avant et ensuite après. Je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas forcément le temps de tout regarder, mais où les grands principes sont réappliqués avec la question de la visibilité. Etc. Donc, tout ça pour vous dire que ça aboutit quand même à des réaménagements concrets d'espaces de mobilité, de bus, de métro, des parcs, des parkings. Voilà, vraiment pas mal d'espaces et qui emportaient en tout cas il y a une dizaine d'années encore largement les traces. Un des gros points faibles actuellement, hein, c'est très difficile d'avoir aujourd'hui des avant-après, de savoir qui utilisait un espace avant projet et qui l'utilise à la fin du projet. Donc ça, c'est un des soucis qu'on a. On a encore du mal à évaluer l'impact réel des projets qui ont des volontés égalitaires. Et donc ça, clairement, il y a pas mal de boulot à faire là-dessus. Et de manière générale, il y a aussi la question de la communication. Quel discours on utilise? Est-ce qu'on s'adresse qu'aux hommes ou qu'à certaines catégories de population? Quelles sont les représentations véhiculées par le travail? Et c'est autant dans les mots que dans les images. Évidemment, hein. Dans les petites figurines que les architectes utilisent pour rendre vivant leur projet, et bah, quelles personnes on représente, notamment quand on propose un éco-quartier à la place d'un quartier de QPV, souvent les personnes qui sont représentées sur les projets d'architecture ne sont pas la population qui vit encore actuellement dans le quartier. Voilà, donc bon, bah, il y a ces questions-là. À qui on s'adresse? Est-ce que les documents sont accessibles au plus grand nombre ou pas? Guide d'aménagement pour un environnement urbain sécuritaire, ça se trouve encore en ligne actuellement. Le guide référentiel genre et espace public de la mairie de Paris. Et puis, garantir l'égalité dans l'aménagement des espaces publics, mais aussi de l'habitat, méthode et outils qui a été fait par Jauréville avec Villiers-le-Bel et l'ANRU. Voilà, ça, ce sont vraiment des ressources que je recommande chaleureusement.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter notre site professionbanlieue.org pour toute information sur l'ensemble de nos actions. Nous vous invitons également à adhérer pour soutenir notre association. À bientôt pour les podcasts de Profession Banlieue.